au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. L'émission Au fil des pages vous présente des livres, bien sûr, mais elle tient de temps à autre à donner la parole aux éditeurs, parce que sans éditeurs, pas de livres. Et dans cette émission, c'est une femme éditeur que j'ai le plaisir de recevoir, Constance de Bartilla, directrice générale des éditions Bartilla. Madame, bonjour.
Bonjour,
soyez
madame.
Soyez la bienvenue.
Merci
dans
beaucoup
notre
de m'accueillir.
Studio. Je veux aussi accueillir votre directeur d'édition, Charles Fica. Est-ce votre titre?
Oui. Éditeur.
Éditeur,
collaborateur
et collaborateur de Constance Bartilla. Eh bien, vous aussi, soyez bienvenue dans notre studio. Vous avez toujours la grande générosité de nous apporter les livres qui peuvent concerner Canal Académie. Et il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de livres dans cette maison d'édition qui concernent à la fois les académiciens ou qui sont écrits par des académiciens. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais vous proposer de commencer par une courte présentation de votre maison d'édition, pour que vous nous parliez après des joies et des difficultés du métier d'éditeur aujourd'hui. Alors, il y a une dizaine d'années que vous avez repris cette maison d'édition. Je dis repris parce qu'elle avait été lancée par votre père, Christian de Bartilla, grand éditeur aussi sur la place de Paris. Et vous lui avez tout de suite imprimé votre marque, vous lui avez donné une nouvelle orientation, un nouveau style. Alors, quel est le style des éditions Constance de Bartilla, des éditions Bartilla?
Eh bien, mon père avait créé cette maison d'édition il y a donc une vingtaine d'années, au début des années 90. C'était une maison qui appartenait un petit peu à sa fin de carrière, parce que c'est une maison qu'il a créée quand il a commencé à avoir une moindre activité et partir à la retraite. Et comme mon père est un éditeur un peu compulsif, qui ne peut pas vivre sans éditer de livres, eh bien, il a créé cette maison pour satisfaire ce besoin toujours aussi impérieux de produire des livres et d'en éditer. Et je suis venue le rejoindre en 1994-1995. Et assez rapidement, j'ai eu envie de créer ma propre maison dans son sillage, bien sûr, parce qu'il m'avait appris beaucoup de choses, mais peut-être de m'orienter vers des voies un peu différentes. Voilà.
Alors justement, quelle voie, quel thème avez-vous choisi
bien
pour cette maison?
Je dirais que nous nous sommes plus orientés vers la littérature et vers l'histoire littéraire. La maison auparavant était plus axée sur la spiritualité, le régionalisme. Et nous avons eu envie, avec Charles Fica, qui est très vite venu me rejoindre, et bien de nous orienter vers une maison de littérature générale au service des textes classiques et au service d'une histoire de la littérature et de l'édition telle que nous l'aimions, la concevions et avons envie de la voir se poursuivre.
Alors j'avais envie de vous poser une petite question un peu piège, mais si vous deviez résumer les éditions Bartilla avec quelques mots, ici nous aimons les mots forcément à cause de l'Académie, alors quel mot choisiriez-vous? Donc il y aurait sûrement le mot littérature et texte, puisque vous venez de dire que c'était votre impulsion générale, mais d'autres mots peut-être?
Je dirais littérature au sens large, c'est-à-dire à savoir que la littérature, ce n'est pas que, et on a tendance à l'oublier aujourd'hui, ce n'est pas que la fiction. C'est aussi des textes de prose, des textes de poésie, des textes de témoignages. Et donc, nous avons une conception de la littérature qui est une littérature toute production de l'esprit qui mérite d'être soulignée, d'être mise en livre, d'être diffusée. Voilà, c'est ce que nous aimons, c'est faire circuler les idées et également proposer des éditions de livres de qualité, c'est-à-dire de livres qui sont dignes d'être appelés des livres, ce que nous appelons nous des livres, c'est-à-dire qui ont des livres relus, avec des index, avec des présentations, avec, je dirais, un travail éditorial propre que nous souhaitons extrêmement soigné et abouti.
Dans ce que vous dites, j'entends, nous ne produisons pas des produits uniquement pour les mettre sur le marché et les étals des librairies. C'est-à-dire,
disons
le
que
livre n'est pas un produit marchand.
C'est un produit marchand qui doit rencontrer aujourd'hui des lecteurs. Et malheureusement, on s'aperçoit que les lecteurs qui sont en mesure et en mesure intellectuelle d'acheter certains types de produits sont de moins en moins nombreux. Ça, il faut bien le reconnaître. Et on est à un carrefour qui fait que les livres que nous mettons sur le marché aujourd'hui, qui sont bien évidemment des produits marchands, sinon nous ne les éditerions pas, nous ne serions pas éditeurs, eh bien ces livres-là, nous sommes obligés de leur faire rencontrer un public. Et donc nous sommes contraints à de plus en plus de pertinence dans nos analyses éditoriales et dans nos choix. Et nous sommes de plus en plus obligés d'être à l'écoute du monde tel qu'il est, tel qu'il évolue, et d'être vraiment, non pas en retrait, mais véritablement à la pointe de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui dans le domaine que nous aimons.
Absolument. Peut-être les lecteurs sont-ils moins nombreux, mais si j'en crois les enquêtes que j'ai fait faire à Canal Academy, les lecteurs achètent beaucoup de livres. Ceux qui lisent achètent beaucoup de livres.
Statistiquement, le gros lecteur, ce qu'on appelle le gros lecteur,
c'est combien ?
Il y a 10 ans, c'était 7 livres par an. Aujourd'hui, c'est 3 livres.
Bon, à Canal Academy, ils
donc,
sont mieux
alors,
que
à Canal
cela,
Academy,
parce que c'est 5 ou 6.
Ils sont
c'est
beaucoup
5 ou 6
plus,
par voilà, an, donc, largement, largement.
Voilà, donc vous avez un public motivé.
Est-ce important pour votre maison d'être une maison indépendante et de ne pas faire partie d'un grand groupe d'édition ?
Oui, c'est important parce que finalement, on est, oui, une forme de liberté, d'autonomie. Je pense qu'on est moins soumis à des impératifs, je dirais, des contraintes ou financières ou éditoriales. Oui, je pense que c'est important d'être libre.
Mais c'est difficile sûrement d'être libre financièrement. Il faut tout de même arriver à équilibrer son budget.
Oui, mais...
C'est un souci pour un éditeur
permanent,
je suppose.
C'est un souci permanent, mais... J'étais à bonne école, c'est-à-dire que mon père m'a toujours appris à faire des budgets, des analyses de compte d'exploitation de livres, de savoir ce qu'un livre allait nous coûter, ce qu'il pouvait nous rapporter. Et les analyses que nous faisons, elles sont toujours à minima. C'est-à-dire que je suis souvent frappée d'entendre des éditeurs dire « Oh, ce livre-là peut faire 10 000 ou 20 000. Ou... »
Mais il ne faut pas rêver.
Et je crois qu'une des garanties de la survie, c'est de vraiment faire des budgets qui sont des sortes d'allées comme ça pour avancer dans l'année, qui soient très, très raisonnables et qui analysent le potentiel des livres tels qu'ils se présentent réellement sur le marché. Et non pas
tous les livres ne sont pas destinés à la même diffusion, c'est-à-dire il y en a qui seront peu lus, d'autres beaucoup plus.
Oui. Écoutez, on sait qu'un livre, je dirais, de fond, ce qu'on appelle de fond aujourd'hui, ou je dirais de culture générale d'un certain niveau, et donc d'érudition, je dirais, douce, est un livre qui, il y a 10 ans ou 15 ans, se vendait à 3000 exemplaires. Aujourd'hui, il est à maximum 1000 exemplaires. Donc, il y a un public qui s'est un peu perdu en route, quand même. Il faut bien le remarquer pour certains livres qui nous permettaient, oui, à nous, à moi, comme à d'autres éditeurs, d'avoir une certaine forme d'autonomie financière.
Globalement, la maison Bartilla publie combien de livres dans l'année ?
On publie à peu près 25 livres, à peu près entre 20 et 25. Où il y a des années, ça a pu être un peu plus.
20 à 25.
Ouais, 20 à 25.
Ça vous fait à peu près 300 titres au catalogue ?
On en a à peu près 300, 350, oui.
C'est considéré comme une grande maison, petite maison ? Comment on se positionne ? C'est peut-être pas important d'ailleurs de se positionner comme cela, mais...
Disons que je pense que c'est une maison qui commence à avoir une taille raisonnable parce qu'elle a beaucoup de titres dans son fonds. Il y a deux grandes maisons qui font souvent beaucoup parler d'elles et qui n'ont pas beaucoup de titres de fonds. Celle-là, je dirais, a une valeur à travers justement certains exemplaires qu'on peut remettre sur le marché, qu'on peut réimprimer s'il y a un événement qui s'y rattache, un film, une exposition. Donc on peut aussi puiser dans justement ce stock de livres que nous avons finalement élaboré depuis toutes ces années.
Donc on l'aura compris, la maison Bartilla, ce sont d'abord des textes finalement, c'est cela. Oui. Mais ça n'empêche pas d'être une maison généraliste et d'avoir des textes dans beaucoup de domaines. On en trouve à la fois dans l'histoire, dans la biographie, dans la gastronomie, dans les régions. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit bien écrit, finalement. Même les livres de cuisine, j'allais dire. Il faut qu'on ait un plaisir à les lire.
Écoutez, oui, vous parlez de cuisine, je peux parler de vin. Par exemple, nous avons un livre d'un auteur qui s'appelait, malheureusement, puisqu'il est disparu il y a quelques mois, Robert de Goulaine, et qui s'appelait le livre des vins rares et disparus. Et c'était un livre à la fois de plaisir, de goût, de saveur, et en même temps, un livre d'histoire du vin et de ses mythologies. Donc, en effet, c'est un livre élégant sur le vin, sur une saveur, sur un plaisir. Voilà.
Voilà, et donc on peut offrir et le rééditer régulièrement.
C'est ce que nous avons fait.
Alors, avant d'aborder le travail d'éditeur, on va marquer une courte pause musicale et puis on va vous retrouver et faire aussi parler un peu Charles Fica. Retour dans notre studio en compagnie de Constance de Bartilla, qui dirige la maison d'édition Bartilla, et de son éditeur Charles Fica, qui va maintenant nous expliquer comment choisit-on les titres, les textes et les auteurs. Parce que j'ai remarqué que vous prenez des auteurs connus, mais avec des textes qu'on connaît moins. J'ai plein d'exemples à vous citer. Mais vous aussi, sûrement.
Oui, c'est essayer toujours de faire découvrir une facette inattendue d'un auteur, ou quand on prend un auteur contemporain, c'est essayer de publier de lui le livre qu'il n'aurait pas forcément publié chez son éditeur habituel ou dans une maison amie. Donc, c'est la recherche de l'originalité,
finalement.
Permettre une expression qui ne trouverait pas forcément sa place à côté, tout en essayant de conserver une pertinence éditoriale.
Alors, un exemple, c'est le livre du mois sur votre site, que je suis allée regarder, bien sûr. C'est Alexandre Dumas, auteur hyper connu, bien sûr. Le Robin des Bois. Alors, c'est moins connu que les autres œuvres de Dumas, mais en même temps, ça a un caractère d'actualité. Vous le souligniez tout à l'heure, il fallait qu'il y ait une actualité.
C'est un livre qu'on avait publié il y a 4 ans. Et puis, le premier tirage était épuisé et on a profité de la super production de Ridley Scott avec Russell Crowe dans le rôle titre pour réactiver ce livre dans une nouvelle collection qu'on a créée spécialement pour justement remettre sur le marché des titres du fond dont on parlait tout à l'heure, dans une présentation peut-être modernisée. Et il faut toujours réimprimer, et ce qui fait aussi la valeur d'un fond, c'est justement
qu'il vive
et
voilà,
qu'il soit réinventé. Et dans l'édition, on est aussi dans la métamorphose perpétuelle, et ce Robin des Bois d'Alexandre Dumas avait une occasion de renaître grâce à une actualité cinématographique, mais ça aurait pu être à propos d'un film ou d'un autre film ou d'une exposition ou d'une célébration autour de Dumas. Hein. On n'avait pas hésité à publier au moment de la translation des cendres d'Alexandre Dumas au Panthéon une sorte d'essai pamphlet sur Auguste Maquet, qui avait été le collaborateur d'Alexandre Dumas et qu'il était bien, il était bien de le remettre à l'honneur dans ce concert de louanges, dans cet unanimisme qui célébrait l'auteur des Trois Mousquetaires. C'était bien de mettre en avant son collaborateur.
Absolument, donc un tout petit côté provocateur, on ne recule pas devant, j'ai l'impression. Voulez-vous nous parler un petit peu, Constance Bartilla, de cette collection Omnia ? Parce que c'est une collection que j'aime beaucoup, parce que justement, elle reprend des textes anciens, surprenants, inattendus, originaux. Et je trouve que c'est une très belle collection. Les autres le sont certainement aussi, mais celle-ci est particulièrement attachée à Canal Academy, parce qu'on y trouve beaucoup d'académiciens en plus.
Alors la collection Omnia, comme son nom l'indique, c'est de tout. Et propose un prix donc relativement abordable, ce qu'on pourrait appeler un prix de semi-poche, des livres, alors dont en effet, soit ce sont des livres de notre fonds que nous réimprimons sous cette forme-là, par exemple récemment La Paix des Cimes, les chroniques 48-55 de François Mauriac,
justement, un académicien sur lequel Canal Academy propose une émission.
Voilà, il y a eu un Louis II de Bavière de Jacques Bainville,
également magnifique, que j'ai lu en effet, magnifique, oui.
Nous avons publié également un Karl Marx de Gustav Meyrink, qui est véritablement le livre de référence sur Karl Marx, donc toujours dans cette optique de publier de tout, n'est-ce pas ?
Les Déracinés de Barrès.
Les Cathédrales de France de Rodin, Le Désespéré de Léon Blois, un livre que j'aime tout particulièrement qui est Le Nada de Carmen Laforet, qui est une grande femme écrivain espagnole et que nous avons republié donc en Omnia. Et puis tout récemment.
Et les grands classiques, il y a aussi beaucoup de grands classiques. Il y a Suétone, par exemple.
Il y a Suétone, La vie des douze Césars, qui était un peu aussi une curiosité, je dirais, intellectuelle et syntaxique, puisque c'est la traduction de Klossowski. Donc ça nous paraissait aussi important de mettre en circulation cette belle traduction. Et puis récemment, donc Ma vie et moi d'Henri Miller. Également, et le Claude Monet de Georges Clemenceau. Voilà, donc ce sont des livres que j'ai entre les mains et qui est un livre d'amitié, d'admiration.
Que je citerai aussi dans Canal Académie parce que j'ai fait des émissions en effet sur la correspondance de Clemenceau à Monet et réciproquement. Et donc nous mentionnerons cet ouvrage avec un grand plaisir. Alors j'aimerais savoir et entrer un peu dans le secret de la répartition des tâches entre vous justement. Vous avez un secteur de prédilection, Charles Ficat, un autre secteur où vous faites tout ensemble. Comment travaillez-vous ensemble ?
Écoutez, ça dépend des livres. Hein. En effet, chacun a un peu ses affinités. Je dirais que Charles a énormément travaillé sur des très gros livres et de la maison, importants et qui ont demandé un soin de fabrication tout à fait exceptionnel. Je cite par exemple ce livre sur De Gaulle, donc De Gaulle Inventaire, l'esprit, la culture et la foi.
Du professeur Alain Larcan.
Alain Larcan. Et c'est un livre qui recense toutes les sources intellectuelles du général De Gaulle. Donc c'est un sujet qui est de très haut niveau et auquel, évidemment, Charles a apporté tout son soin. Il a également supervisé les travaux de germanistes que nous avons faits, lui-même germaniste. Et donc, nous avons publié beaucoup de Goethe, les écrits autobiographiques de Goethe par Jacques Le Rider, et Le Voyage en Italie, avec une présentation de Jean Lacoste, et Le Faust, évidemment, l'œuvre majeure de Goethe, Le Faust, dont nous avons publié le texte primitif qui s'appelle L'Ours Faust, dans une première traduction en français de Jean Lacoste, et en un seul volume avec Le Faust 1 et Le Faust 2. Donc ça, c'est une rareté aussi sur le marché d'avoir ce triptyque finalement, d'avoir ces trois Faust ensemble. Et ça, c'est une œuvre dont Charles s'est plus particulièrement occupé. Ce sont des travaux de pharaoniques et qu'il a parfaitement menés.
Combien de temps, Charles, pour mener un travail comme cela, pour que nos auditeurs aient idée du travail d'un éditeur ?
Il a fallu convaincre les maîtres d'œuvre pour qu'ils acceptent de se lancer dans un pareil projet, parce que le Faust de Goethe avait eu des prédécesseurs, il y a eu Nerval, et donc là, Jacques Le Rider et Jean Lacoste ont retraduit chacun des parties de cet ensemble, et il a fallu, pour les maîtres d'œuvre, 3-4 ans. Mais l'idée était ancienne. Ce livre-là manquait sur le marché depuis très longtemps, et les éditions allemandes, la plupart, comportaient le Ur-Faust. Et ce texte du Ur-Faust était une lacune sur le marché, donc on a voulu la combler, et aussi en permettant une lecture du Faust 2, la deuxième partie de la tragédie, avec un appareil de notes, un appareil critique à jour. Et ça manquait aussi, puisque dans d'autres collections prestigieuses, ce titre ne figurait pas. Et donc, voilà, il a fallu s'y mettre. Et
c'est beaucoup de travail. Voilà. Oui, les notes, la bibliographie.
Oui, on a fait un index.
L'index qui prend beaucoup de temps, etc. Ça, c'est le vrai travail de l'éditeur qu'on ne mesure pas quand on n'a pas travaillé dedans et qui est véritablement important, évidemment.
Avec les maîtres d'œuvre aussi, bien entendu. Parce que
Et il y a eu tous les travaux autour de Mauriac.
Aussi, oui, de Jean Touzeau, qui a exhumé beaucoup de textes et qu'on a accompagné aussi dans cette entreprise et qu'on a essayé de servir au mieux pour diffuser en fait, des textes méconnus de Mauriac. Et pour beaucoup d'entre eux, ces textes comptent parmi ce qu'il a fait de mieux. Parce que on peut même considérer que certains recueils de Mauriac parus de son vivant n'étaient pas édités avec le soin ou la rigueur qui sont aujourd'hui de mise pour ces publications.
Le soin, c'est un mot que l'édition aujourd'hui a peut-être tendance à oublier.
Mais elle a tort.
Du soin au livre.
Elle a tort parce que c'est son avenir. C'est son...
Oui, c'est ce qui va la différencier des marchands de livres.
C'est ce qui va la différencier des marchands de livres et c'est ce qui va permettre de continuer à imprimer des livres. parce que c'est ce qui fera leur valeur ajoutée, le soin, la finition et l'appareil critique. Et finalement, ce sont toutes ces choses-là qu'on devra matérialiser véritablement sous une couverture de livre.
Donc vous n'êtes pas inquiète pour, par exemple, les livres virtuels?
Je pense que ça
n'empêche pas.
Je pense qu'on peut être inquiet, si vous voulez, pour le livre lui-même. Oui, l'objet livre aujourd'hui est quand même relativement en péril. La fonction lecture peut-être pas, finalement, parce qu'elle va devenir, c'est vrai que la lecture va devenir une fonction. Et que le livre, nous sommes en train d'essayer de comprendre aujourd'hui et de savoir quels vont être les critères possibles de son existence. C'est-à-dire, comment va-t-il être possible d'imprimer un livre aujourd'hui? Eh bien, je pense que ce sera en proposant justement des livres qu'on ne peut pas trouver, sous le pied d'un cheval ou sur le pied d'un iPhone ou d'un iPad, et des livres qui pourront aussi rencontrer, à un moment donné de leur publication, un public qui va juger qu'ils sont dignes d'être achetés. Voilà, donc ce sera la confrontation d'une certaine forme de soin avec un événement et avec un public. Et ce sera uniquement à travers ce canal-là qu'on va pouvoir aujourd'hui imprimer des livres, finalement.
Si j'ai bien compris ce qu'a dit Charles Ficat, il faut 3 ou 4 ans pour faire un livre très soigné, très travaillé,
etc. Oui, pour les livres...
C'est un gros risque pour l'éditeur. On ne mesure pas toujours que pendant ce temps-là, il faut vivre, il faut faire tenir la maison.
Oui, oui. Ben, c'est pour ça justement que nous avons fait aussi la collection Omnia, qui nous permet de mettre en circulation des livres, je dirais, qui demandent peut-être un peu moins de travail que ces gros projets qui sont très longs à finaliser. Comme par exemple aussi la correspondance de Victoria Ocampo, ou les travaux que nous avons faits autour de Victoria Ocampo. Ce sont aussi des projets, je dirais, peut-être plus à long terme, comme les Goethe ou comme les Mauriac. Ça demande des négociations avec des familles, bien avec sûr. Des héritiers. Donc ça, ce sont des livres, en effet,
lourds
à monter et avec tout un travail préliminaire important.
Bien que vous ayez un secteur qui a l'air de très bien marcher aussi, ce sont les grandes biographies relatives à l'art. Alors, il faudrait peut-être nous en parler aussi, parce que là, c'est assez important. Oui. Vous en occupez ou c'est Constance qui s'en occupe ?
C'est toujours Constance qui s'en occupe. On essaye de faire ça en fonction aussi des opportunités, des occasions, des idées du moment, des lacunes aussi à combler, parce que souvent, on fait des livres parce qu'on considère ce serait bien que ça existe et... On ne le trouve pas aujourd'hui sur le marché. Et alors, on a publié pas mal de livres d'esthétique, en effet, depuis 4 ou 5 ans, et avec un réel plaisir.
Titre, par exemple
je pense aux écrits sur l'art de Huysmans, qui ont fait partie également d'un bloc important, je dirais un bloc huysmansien important, puisque nous avons publié pas mal de Huysmans. Sur le plan esthétique, on a eu également un livre qui a marqué, qui était « L'origine du monde » de Thierry Savatier, sur le fameux tableau de Courbet. Ça, c'est un livre qui a eu une jolie histoire, une belle carrière, et qu'on a repris également dans la collection Omnia. Nous avons eu un livre sur les Demoiselles d'Avignon, le tableau de Picasso, par une femme tout à fait remarquable qui s'appelle Dominique Dupuis-Labbé. Nous avons eu un livre sur le Parthénon.
Tout ça, ça manquait. En fait, ce sont... Enfin, non, il y avait déjà des
livres en français,
sur le Parthénon,
un
mais
livre...
peut-être que ça manquait.
En français, un livre sur le Parthénon, malheureusement, non.
Il n'y en avait pas depuis le XXe siècle.
Contrairement à ce qu'on croit, on pense que tout existe et il y a toujours des endroits où il y a encore moyen.
Ça veut dire que l'éditeur, il est à la fois dénicheur d'auteurs, dénicheur de titres, ça on comprend bien, mais il est aussi expert de ce qui se vend sur le marché, de ce qui se trouve disponible sur le marché.
Indispensable d'être en éveil et de savoir exactement, parce que il suffit pas de faire des livres de fond comme on dit aujourd'hui, parce que d'ailleurs c'est presque un gros mot aujourd'hui, le livre de fond, ça fait peur à tout le monde, ça fait peur aux libraires, ça fait peur aux diffuseurs, ça fait peur. Il suffit pas de faire ces livres là comme ça, de dire je prends un livre qui n'existe plus depuis 30 ans ou depuis 20 ans. Il faut voir s'il peut véritablement...
Sa pertinence.
S'il
va rencontrer son public,
une audience de presse et une attention. Oui, ça c'est...
Merci Constance de Bartilla.
Merci surtout à vous, Hélène Renard.
Merci beaucoup.
Merci Charles Ficat. Et puis bon succès pour votre maison d'édition. Nous continuerons à mentionner tous les ouvrages qui concernent les académiciens. Et bien sûr, avec grand plaisir, nous les ferons commenter dès que ce sera possible.
Ben merci infiniment.